dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
Ce labo sera votre labo.
Vous avez carte blanche.
Chaque mois, des millions de femmes travaillent avec des douleurs invisibles, pourtant on en parle très peu. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes étudiantes en troisième année de licence en sanitaire et sociale à la faculté de médecine de Brest, au sein de l'Université de Bretagne occidentale. Aujourd'hui, on vient vous parler d'un projet un peu particulier, un projet qui nous a demandé du travail, mais surtout de la réflexion, du courage et beaucoup d'écoute. Ce projet porte sur un sujet encore très tabou, les règles.
Et oui, ce projet, on l'a réalisé dans le cadre d'une UE de sociologie au semestre 5. L'objectif était de créer un podcast d'environ 7 minutes autour d'une thématique liée aux menstruations.
Au départ, plusieurs sujets étaient proposés. L'IVG, l'endométriose, la grossesse, la ménopause ou encore l'expérience personnelle. Donc on avait déjà une base, un cadre.
On était encadré par le professeur Huberman et par Azélie Potsiar, une intervenante spécialisée dans la création audio. Parler des menstruations au travail permet de sensibiliser, de réduire les tabous, renforcement des dispositifs de lutte contre les discriminations et de réfléchir à des environnements professionnels plus respectueux. En vrai, on tient à les remercier parce qu'ils nous ont accompagnés du début à la fin.
Oui, parce que ce n'était pas juste « faites un podcast et débrouillez-vous ». On a été guidés, conseillés, parfois challengés aussi.
Et maintenant, on va parler sur le choix du thème. Au début, on doit l'avouer, on avait mal compris les consignes. On pensait que les thématiques inscrites au tableau étaient simplement des pistes de réflexion, pas des sujets à choisir obligatoirement.
Oui, on croyait qu'on pouvait s'en inspirer librement et proposer quelque chose d'un peu différent.
Mais en réalité, chaque groupe devait sélectionner l'une des thématiques proposées. Et là, petit problème. Plusieurs groupes s'étaient déjà positionnés sur le même thème.
Et comme nous étions déjà 5, on ne voulait pas se séparer.
C'est à ce moment-là, j'ai proposé, et si on travaillait sur les règles de travail? Il y a eu un petit silence. On ne savait pas si c'était accepté, puisque ce n'était pas écrit au tableau.
Mais on sentait qu'il y avait un vrai enjeu derrière cette question.
Exactement, on avait déjà commencé à réfléchir à un angle d'analyse. Les inégalités, la santé au travail, le tabou autour des menstruations. Après discussion avec l'enseignant, notre proposition a été acceptée. C'est comme ça que notre projet est né.
De mon côté, j'ai choisi d'aborder la ménopause. Pourquoi ? Parce que je constate que de nombreuses femmes rencontrent des difficultés d'accès à l'information et à un accompagnement adapté durant cette étape de vie. La ménopause reste encore peu visible dans l'espace public et insuffisamment prise en compte dans les politiques de santé. Pourtant, elle peut s'accompagner des symptômes importants tels que les bouffées de chaleur, troubles de sommeil, fatigue, changement d'humeur, qui impacte directement la vie personnelle mais aussi la vie professionnelle. À travers ce travail, nous avons donc voulu mettre en lumière des réalités souvent invisibilisées mais qui concernent pourtant une grande partie des femmes.
Alors pourquoi les règles au travail plus précisément ? Eh bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte que socialement nous n'avons pas tous été égaux dans le monde professionnel.
Et les menstruations font partie de ces inégalités invisibles, elles concernant une grande partie des femmes pendant près de 40 ans de vie, de leur vie, et mais elles restent absentes des politiques d'organisation du travail.
Les menstruations ne sont pas seulement un phénomène biologique. Pour certaines femmes, elles s'accompagnent de douleurs intenses, crampes abdominales, migraines, nausées, fatigue extrême. Des pathologies comme l'endométriose peuvent même provoquer des douleurs invalidantes.
Pourtant, dans le monde professionnel,
ces réalités sont peu reconnues. Beaucoup de femmes continuent à travailler malgré la douleur. Certaines prennent des antidouleurs en silence. D'autres serrent des dents par peur d'être jugées comme moins compétentes ou moins fiables.
Imaginez devoir rester debout 8 heures, servir des clients, porter des charges lourdes ou rester concentré toute la journée avec des crampes très fortes. Cette situation est d'autant plus difficile que dans les métiers physiques. Les métiers du soin ou les métiers précaires où l'absence peut avoir des conséquences directes sur le salaire.
Ce qui pose question, c'est que cette souffrance est normalisée parce que les règles sont perçues comme naturelles et on considère qu'il est normal de continuer à travailler sans adaptation. Cela relève une organisation du travail pensée historiquement autour d'un modèle masculin qui ne prend pas en compte les spécificités biologiques féminines.
Il existe pourtant des débats sur le congé menstruel dans certains pays, mais en France, le sujet reste controversé. Certains y voient une avancée pour la santé des femmes, d'autres craignent un risque de stigmatisation à l'embauche.
À travers ce thème, nous voulions donc interroger la place du corps féminin dans l'espace professionnel, le silence autour des douleurs menstruelles et les inégalités structurelles qui en déroulent.
Finalement, notre question centrale était pourquoi une réalité qui touche autant de femmes reste-t-elle aussi peu visible dans le monde du travail?
Et là, on parle sur les congés menstruels. Dans notre podcast, nous voulions pas seulement poser un problème, nous voulions aussi ouvrir une réflexion sur le plus large sur les solutions possibles et les implications sociales.
Nous avons notamment abordé plus précisément la question du congé menstruel.
Oui, c'est un dispositif qui existe déjà dans un certain pays et qui suscite de nombreux débats, par exemple en Espagne.
Et nous avons évoqué plusieurs contextes comme l'Algérie, les États-Unis et la France pour montrer que cette question dépasse largement nos frontières et s'inscrit dans des réalités sociales, culturelles et politiques différentes.
Nous avons fait quelques extraits de notre podcast où on entend justement les trois pays s'en dévoiler davantage.
J'ai travaillé plusieurs années comme infirmière au service de gynéco-obstétrique en Algérie.
C'est donc ma 5e année d'enseignement à l'Université de Bretagne Occidentale, à Brest. Resté 1 an aux États-Unis. Je sais que ce n'est pas du tout le cas partout aux États-Unis, et encore moins maintenant.
Ce débat n'est donc pas uniquement français. Il interroge plus largement la manière dont la société prend en compte la santé des femmes dans le monde du travail.
La question est complexe. D'un côté, le congé menstruel peut être perçu comme un progrès social, puisqu'il permet de reconnaître officiellement les douleurs menstruelles comme un enjeu de santé et d'améliorer les conditions de travail de nombreuses femmes.
Mais dans un autre côté, certaines critiques souligne le risque de stigmatisation. Est-ce que cela pourrait renforcer l'idée que les femmes seraient moins aptes au travail ou est-ce que cela pourrait freiner l'embauche dans certains secteurs?
Et cela pose donc une tension entre reconnaissance et risque d'exclusion. Être avancé en matière de santé publique et possible renforcement des inégalités professionnelles.
Finalement, notre objectif n'est pas de trancher, mais de mettre en lumière la complexité du sujet.
Parce qu'au fond, la vraie question est peut-être la suivante. Comment adapter le monde du travail aux réalités des corps sans créer de nouvelles formes d'inégalités?
Et c'est précisément ce questionnement qui ouvre un véritable débat de société.
L'article scientifique « Le regard décolonial ». Dans cette EU, nous devions également analyser un article scientifique en parallèle de notre podcast.
Nous avons choisi un article intitulé « Les congés menstruels, un regard décolonial ».
Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est l'exemple présenté à la fin de l'article en Indonésie. Il évoque des femmes musulmanes Banjar qui considèrent le sang menstruel comme un symbole de chance dans l'extraction artisanale de diamants. Cela nous a interpellés parce que cela montre que les menstruations ne sont pas perçues de la même manière partout dans le monde.
En effet, selon les contextes culturels, religieux ou sociaux, le sang menstruel peut être considéré comme un impur, sacré, tabou, ou simplement naturel. Cela remet en question l'idée qu'il existerait une seule manière universelle de penser les règles.
Et l'approche décoloniale de l'article nous invite justement à déconstruire notre regard occidental. En Europe, les menstruations sont souvent associées à la gêne, au silence ou à la pathologisation. Mais ailleurs, elles peuvent avoir une dimension symbolique ou spirituelle totalement différente.
Cet exemple nous a permis de prendre du recul. Il montre que les débats sur le congé menstruel ne sont pas uniquement des débats médicaux ou économiques. Ils sont aussi culturels et politiques. La manière dont une société perçoit les menstruations influence directement les politiques publiques qu'elle met en place ou qu'elle refuse de mettre en place.
On a décidé d'aborder la question du regard religieux sur les menstruations. Au départ, j'hésitais beaucoup.
Je lui avais dit, si tu ne te sens pas à l'aise, on peut le présenter autrement. On peut reformuler ou prendre plus de distance.
Ah oui, parce que c'est un sujet sensible et il touche à l'intime, aux croyances personnelles et on voulait blesser personne, quoi que ce soit.
Mais en même temps, on s'est rendu compte que ne pas en parler, ce serait aussi d'éviter une dimension essentielle du sujet. Les représentations religieuses influencent fortement la manière dont les menstruations sont perçues, vécues et encadrées socialement.
Et finalement, on a décidé de garder cette partie. Et c'est elle qui a été la plus appréciée finalement.
Peut-être parce qu'on l'a traitée avec nuance. On ne cherchait pas à juger, mais à comprendre, à montrer la diversité des points de vue.
Ce moment nous a aussi appris quelque chose sur notre posture en tant qu'étudiants en sciences sociales. Aborder des sujets sensibles demande de la rigueur, du respect et une capacité à prendre du recul analytique.
Et maintenant, on passe sur le côté apprentissage technique, parce qu'on en a beaucoup à dire.
L'un des grands apprentissages de ce projet a été l'aspect technique. Pour nous, c'était un véritable défi, car aucun d'entre nous n'avait pas déjà réalisé de documentaire sonore auparavant.
On a découvert le logiciel Reaper. Au début, c'est franchement intimidant.
On avait des pistes audio partout à l'écran, des voix, des silences, des essais ratés. Honnêtement, on ne comprenait pas grand-chose au départ.
Mais petit à petit, on a appris à découper les séquences, ajuster les volumes, équilibrer les voix et aussi supprimer les bruits parasites.
Nous avons dû comprendre comment gérer les niveaux sonores, travailler les silences, gérer les transitions fluides. Et surtout construire une narration claire uniquement avec la voix sans support visuel.
Ce qui nous a fait prendre conscience qu'un documentaire sonore repose antérieurement sur la précision, le rythme et l'écoute.
Il y avait aussi des consignes très strictes, notamment l'interdiction totale d'enregistrer avec un téléphone, afin de garantir justement une qualité sonore assez suffisante pour une diffusion publique.
Cela nous a obligés à adopter une posture plus professionnelle. Nous avons dû emprunter du matériel, organiser nos temps d'enregistrement et de refaire plusieurs prises pour obtenir un rendu satisfaisant.
Un point central de notre projet a été la question du consentement.
Sans formulaire signé par les personnes interrogées, le podcast n'était tout simplement pas valide.
Cela nous a fait comprendre que travailler sur des sujets intimes, comme les menstruations ou la ménopause, demande une véritable posture éthique.
Nous ne pouvions pas simplement enregistrer et diffuser des témoignages. Il fallait expliquer clairement l'objectif du projet, les conditions de diffusion et garantir le droit de retrait.
Certaines personnes ont d'ailleurs hésité avant d'accepter de témoigner. Cela nous a montré à quel point ces sujets restent sensibles et parfois tabous.
et nous avons aussi réfléchi à la manière de poser nos questions. Et il fallait éviter toute forme d'intrusion ou de jugement et respecter le rythme et les limites de chaque personne interrogée.
Cette expérience nous a permis de comprendre que la recherche en sciences sociales ne consiste pas seulement à collecter les données, mais elle implique une responsabilité vis-à-vis des personnes qui acceptent de partager le vécu ou pas.
Finalement, le consentement n'est pas qu'une formalité administrative, c'était une démarche essentielle pour garantir le respect, la confiance et la légitimité de notre travail. Le jour où le professeur a diffusé les podcasts en TD, il faut en parler, parce qu'on s'était installé au fond de la classe.
On observait les visages plus que l'écran. On essayait de deviner les réactions. On était vraiment stressés. C'est une chose de travailler en petit groupe, mais on est une autre d'entendre son travail diffusé devant toute la promo.
Et oui, surtout sur un sujet aussi sensible, on se demandait comment les autres allaient recevoir notre approche, nos choix et nos analyses.
Et puis, au fur et à mesure de l'écoute, on a senti que l'attention était là, il y avait du silence et de la concentration.
Et après la diffusion, les retours étaient archi positifs.
Et finalement, c'est peut-être ça donc, on est le plus content d'avoir réussi à ouvrir un dialogue sur un sujet dont on parle rarement.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter Mélodrama de Dizis en feat avec Théodora sur la Radio U 101.1.
Bonne écoute sur Radio U.
Blessé, baisé. Végétais dans le TGV. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je ne veux plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, j'adore.
Ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un coup dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
C'était Théodora et Dizis.
Pour conclure, Ce projet nous a permis de grandir autant sur le plan académique que professionnel.
Il nous a appris aussi à travailler réellement en équipe, à écouter les idées de chacune et à construire une réflexion collective.
Il nous a aussi donné confiance dans notre capacité à aborder des sujets aussi sensibles, à produire un travail rigoureux et à prendre la parole publiquement.
Enfin, ce projet ne s'arrête pas à la salle de TD. Tous les podcasts sont diffusés au Macorlan à Brest à partir du 13 mars 2026 dans le cadre du festival Ressac.
Pour nous, c'est une grande fierté de savoir que notre travail pourra être rendu par un public plus large.
Parce qu'au-delà de la note, notre objectif était d'ouvrir une discussion.
Et de rendre visibles des réalités souvent invisibilisées.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.